Il est en moi quelque chose qui s'oppose au doux phénomène de l'union des âmes. Quelques personnes m'ont recherché, mais rien ne les ramenait près de moi, quelques efforts que je fis vers elles. Pour beaucoup d'hommes, j'ai fait taire ce que le monde appelle la supériorité. Je marchais de leurs pas, j'épousais leurs idées, je riais de leurs rires, j'excusais les défauts. J'excusais les défauts de leur caractère. Si j'eusse obtenu la gloire, je la leur aurais vendue pour un peu d'affection. Ces hommes m'ont quitté sans regret. Tout est piège et douleur à Paris pour les âmes qui veulent y chercher des sentiments vrais. Là où dans le monde se posaient mes pieds, le terrain se brûlait autour de moi. Pour les uns, ma complaisance était faiblesse. Si je leur montrais les griffes de l'homme qui se sentait de force à manier un jour le pouvoir, j'étais méchant. Pour les autres, ce rire délicieux qui cesse à 20 ans et auquel plus tard nous avons presque honte de nous livrer, était un sujet de moquerie. Je les amusais. De nos jours, le monde s'ennuie et veut néanmoins de la gravité dans les plus futiles discours. Horrible époque, où l'on se courbe devant un homme poli, médiocre et froid que l'on hait, mais à qui l'on obéit. J'ai découvert plus tard les raisons de ces inconséquences apparentes. La médiocrité, monsieur, suffit à toutes les heures de la vie. Elle est le vêtement journalier de la société. Tout ce qui sort de l'ombre douce projetée par les gens médiocres est quelque chose de trop éclatant. Le génie, l'originalité, sont des bijoux que l'on sert et que l'on garde pour s'en parer à certains jours. Enfin, monsieur, solitaire au milieu de Paris, ne pouvant rien trouver dans le monde, qui ne me rendait rien quand je lui livrais tout, n'ayant pas assez de mon enfant pour satisfaire mon cœur, parce que j'étais homme, un jour où je sentis ma vie se refroidir, où je pliais sous le fardeau de mes misères secrètes, je rencontrai la femme qui devait me faire connaître l'amour dans sa violence, les respects pour un amour avoué, l'amour avec ses fécondes espérances de bonheur. Enfin, l'amour. J'avais renoué connaissance avec le vieil ami de mon père, qui jadis prenait soin de mes intérêts. Ce fut chez lui que je vis la jeune personne pour laquelle je ressentis un amour qui devait durer autant que ma vie. Plus l'homme vieillit, monsieur, plus il reconnaît la prodigieuse influence des idées sur les événements. Des préjugés fort respectables, engendrés par de nobles idées religieuses, furent la cause de mon malheur. Cette jeune fille appartenait à une famille extrêmement pieuse, dont les opinions catholiques étaient dues à l'esprit d'une secte improprement appelée janséniste, et qui causa jadis des troubles en France. Vous savez pourquoi? Non, dit Genesta. Jansénius, évêque d'Ypres, fit un livre où l'on crut trouver des propositions en désaccord avec les doctrines du Saint-Siège. Plus tard, les propositions textuelles ne semblèrent plus offrir d'hérésie. Quelques auteurs allèrent même jusqu'à nier l'existence matérielle des maximes. Ces débats insignifiants firent naître dans l'Église gallicane deux partis, celui des jansénistes et celui des jésuites. Des deux côtés se rencontrèrent de grands hommes. Ce fut une lutte entre deux corps puissants. Les jansénistes accusèrent les jésuites de professer une morale trop relâchée et affectèrent une excessive pureté de mœurs et de principes. Les jansénistes furent donc en France des espèces de puritains catholiques, si toutefois ces deux mots peuvent s'allier. Pendant la Révolution française, il se forma, par suite du schisme peu important qui produisit le Concordat, une congrégation de catholiques purs qui ne reconnurent pas les évêques institués par le pouvoir révolutionnaire et par les transactions du pape. Ce troupeau de fidèles forma ce que l'on nomme la Petite Église, dont les ouailles professèrent, comme les jansénistes, cette exemplaire régularité de vie qui semble être une loi nécessaire à l'existence de toutes les sectes proscrites et persécutées. Plusieurs familles jansénistes appartenaient à la Petite Église. Les parents de cette jeune fille avaient embrassé ces deux puritanismes, également sévères, qui donnent au caractère et à la physionomie quelque chose d'imposant. Car le propre des doctrines absolues et d'agrandir les plus simples actions en les rattachant à la vie future. De là cette magnifique et suave pureté du cœur, ce respect des autres et de soi. De là je ne sais quel chatouilleux sentiment du juste et de l'injuste, puis une grande charité, mais aussi l'équité stricte et, pour tout dire, implacable. Enfin, une profonde horreur pour les vices, surtout pour le mensonge qui les comprend tous. Je ne me souviens pas d'avoir connu de moments plus délicieux que ceux pendant lesquels j'admirais pour la première fois chez mon vieil ami la jeune fille vraie, timide, façonnée à toutes les obéissances, en qui éclataient toutes les vertus particulières à cette secte, sans qu'elle en témoignât néanmoins aucun orgueil. Sa taille souple et déliée donnait à ses mouvements une grâce que son rigorisme ne pouvait atténuer. La coupe de son visage avait les distinctions, et ses traits avaient la finesse d'une jeune personne appartenant à une famille noble. Son regard était à la fois doux et fier, son front était calme, puis sur sa tête s'élevaient des cheveux abondants, simplement nattés, qui lui servaient à son insu de parure. Enfin, capitaine, elle m'offrit le type d'une perfection que nous trouvons toujours dans la femme de qui nous sommes épris. Pour l'aimer, ne faut-il pas rencontrer en elle les caractères de cette beauté rêvée qui concorde à nos idées particulières? Quand je lui adressai la parole, elle me répondit simplement, sans empressement ni fausse honte, en ignorant le plaisir que causaient les harmonies de son organe et de ses dons extérieurs. Tous ces anges ont les mêmes signes auxquels le cœur les reconnaît, même douceur de voix, même tendresse dans le regard, même blancheur de teint, quelque chose de joli dans les gestes. Ces qualités s'harmonient, se fondent et s'accordent pour charmer sans qu'on puisse saisir en quoi consiste le charme. Une âme divine s'exhale par tous les mouvements. J'aimais passionnément. Cet amour réveilla, satisfit les sentiments qui m'agitaient. Ambition, fortune, tous mes rêves, enfin. Belle, noble, riche et bien élevée, cette jeune fille possédait les avantages que le monde exige arbitrairement d'une femme placée dans la haute position où je voulais arriver. Instruite, elle s'exprimait avec cette spirituelle éloquence à la fois rare et commune en France, où, chez beaucoup de femmes, les plus jolis mots sont vides, tandis qu'en elle, l'esprit était plein de sens. Enfin, elle avait surtout un sentiment profond de sa dignité qui imprimait le respect. Je ne sais rien de plus beau pour une épouse. Je m'arrête, capitaine. On ne peint jamais que très imparfaitement une femme aimée. Entre elle et nous, il préexiste des mystères qui échappent à l'analyse. Ma confidence fut bientôt faite à mon vieil ami, qui me présenta dans la famille, où il m'appuya de sa respectable autorité. Quoique reçu d'abord avec cette froide politesse particulière aux personnes exclusives qui n'abandonnent plus les amis qu'elles ont une fois adoptés, plus tard, je parvins à être accueilli familièrement. Je dus sans doute ce témoignage d'estime à la conduite que je tins en cette occurrence. Malgré ma passion, je ne fis rien qui pût me déshonorer à mes yeux. Je n'eus aucune complaisance servile, je ne flattais point ceux de qui dépendait ma destinée. Je me montrais tel que j'étais, et homme avant tout. Lorsque mon caractère fut bien connu, mon vieil ami, désireux autant que moi de voir finir mon triste célibat, parla de mes espérances, auxquelles on fit un favorable accueil, mais avec cette finesse dont se dépouillent rarement les gens du monde, et dans le désir de me procurer un bon mariage, expression qui fait d'un acte si solennel une sorte d'affaire commerciale où l'un des deux époux cherche à tromper l'autre, le vieillard garda le silence sur ce qu'il nommait une erreur de ma jeunesse. Selon lui, l'existence de mon enfant exciterait des répulsions morales en comparaison desquelles la question de fortune ne serait rien et qui déterminerait une rupture. Il avait raison. Ce sera, me dit-il, une affaire qui s'arrangera très bien entre vous et votre femme, de qui vous obtiendrez facilement une belle et bonne absolution. Enfin, pour étouffer mes scrupules, il n'oublia aucun des captieux raisonnements que suggère la sagesse habituelle du monde. Je vous avouerai, monsieur, que, malgré ma promesse, mon premier sentiment me porta loyalement à tout découvrir au chef de la famille. Mais sa rigidité me fit réfléchir, et les conséquences de cet aveu m'effrayèrent. Je transigeais lâchement avec ma conscience. Je résolus d'attendre et d'obtenir de ma prétendue assez de gages d'affection pour que mon bonheur ne fût pas compromis par cette terrible confidence. Ma résolution de tout avouer dans un moment opportun légitima les sophismes du monde et ceux du prudent vieillard. Je fus donc, à l'insu des amis de la maison, admis comme un futur époux chez les parents de la jeune fille. Le caractère distinctif de ces pieuses familles est une discrétion sans bornes, et l'on s'y tait sur toutes les choses, même sur les indifférentes. Vous ne sauriez croire, monsieur, combien cette gravité douce, répandue dans les moindres actions, donne de profondeur aux sentiments. Là, les occupations étaient toutes utiles. Les femmes employaient leurs loisirs à faire du linge pour les pauvres. La conversation n'était jamais frivole, mais le rire n'en était pas banni, quoique les plaisanteries y fussent simples et sans mordant. Les discours de ces orthodoxes semblaient d'abord étranges, dénués du piquant que la médisance et les histoires scandaleuses donnent aux conversations du monde, car le père et l'oncle lisaient seuls les journaux, et jamais ma prétendue n'avait jeté les yeux sur ces feuilles, dont la plus innocente parle encore des crimes ou des vices publics. Mais plus tard, l'âme éprouvait, dans cette pure atmosphère, l'impression que nos yeux reçoivent des couleurs grises, un doux repos, une suave quiétude. Cette vie était en apparence d'une monotonie effrayante. L'aspect intérieur de cette maison avait quelque chose de glacial. J'y voyais chaque jour tous les meubles, même les plus usagés, exactement placés de la même façon, et les moindres objets toujours également propres. Néanmoins, cette manière de vivre attachait fortement. Après avoir vaincu la première répugnance d'un homme habitué au plaisir de la variété, du luxe et du mouvement parisien, je reconnus les avantages de cette existence. Elle développe les idées dans toute leur étendue et provoque d'involontaires contemplations. Le cœur y domine, rien ne le distrait. Il finit par y apercevoir je ne sais quoi d'immense autant que la mer. Là, comme dans les cloîtres, en retrouvant sans cesse les mêmes choses, la pensée se détache nécessairement des choses et se reporte sans partage vers l'infini des sentiments. Pour un homme aussi sincèrement épris que je l'étais, le silence, la simplicité de la vie, la répétition presque monastique des mêmes actes, accomplis aux mêmes heures, donnèrent plus de force à l'amour. Par ce calme profond, les moindres mouvements, une parole, un geste, acquéraient un intérêt prodigieux. En ne forçant rien dans l'expression des sentiments, un sourire, un regard, offrent, à des cœurs qui s'entendent, d'inépuisables images pour peindre leurs délices et leurs misères. Aussi ai-je compris alors que le langage, dans la magnificence de ses phrases, n'a rien d'aussi varié, d'aussi éloquent que la correspondance des regards et l'harmonie des sourires. Combien de fois n'ai-je pas tenté de faire passer mon âme dans mes yeux ou sur mes lèvres, en me trouvant obligé de taire et de dire tout ensemble la violence de mon amour à une jeune fille qui, près de moi, restait constamment tranquille, et à laquelle le secret de ma présence au logis n'avait pas encore été révélé. Car ses parents voulaient lui laisser son libre arbitre dans l'acte le plus important de sa vie. Mais quand on éprouve une passion vraie, la présence de la personne aimée n'assouvit-elle pas nos désirs les plus violents? Quand nous sommes admis devant elle, n'est-ce pas le bonheur du chrétien devant Dieu? Voire, n'est-ce pas adorer? Si pour moi, plus que pour tout autre, ce fut un supplice, de ne pas avoir le droit d'exprimer les élans de mon cœur, si je fus forcé d'y ensevelir ces brûlantes paroles qui trompent de plus brûlantes émotions en les exprimant, néanmoins cette contrainte, en emprisonnant ma passion, la fit saillir plus vive dans les petites choses, et les moindres accidents contractèrent alors un prix excessif. L'admirer pendant des heures entières, attendre une réponse et savourer longtemps les modulations de sa voix pour y chercher ses plus secrètes pensées, épier le tremblement de ses doigts quand je lui présentais quelque objet qu'elle avait cherché, imaginer des prétextes pour effleurer sa robe ou ses cheveux, pour lui prendre la main, pour la faire parler plus qu'elle ne le voulait, tous ces riens étaient de grands événements. Pendant ces sortes d'extases, les yeux, le geste, la voix apportaient à l'âme d'inconnus témoignages d'amour. Tel fut mon langage, le seul que me permit la réserve froidement virginale de cette jeune fille. Car ses manières ne changeaient pas. Elle était bien toujours avec moi comme une sœur est avec son frère. Seulement, à mesure que ma passion grandissait, le contraste entre mes paroles et les siennes, entre mes regards et les siens, devenait plus frappant. Et je finis par deviner que ce timide silence était le seul moyen qui pût servir à cette jeune fille pour exprimer ses sentiments. N'était-elle pas toujours dans le salon quand j'y venais? N'y restait-elle pas durant ma visite attendue et pressentie peut-être? Cette fidélité silencieuse n'accusait-elle pas le secret de son âme innocente? Enfin, n'écoutait-elle pas mes discours avec un plaisir qu'elle ne savait pas cacher? La naïveté de nos manières et la mélancolie de notre amour finirent sans doute par impatienter les parents, qui, me voyant presque aussi timide que l'était leur fille, me jugèrent favorablement et me regardèrent comme un homme digne de leur estime. Le père et la mère se confièrent à mon vieil ami, lui dirent de moi les choses les plus flatteuses. J'étais devenu leur fils d'adoption. Ils admiraient surtout la moralité de mes sentiments. Il est vrai qu'alors, je m'étais retrouvé jeune. Dans ce monde religieux et pur, l'homme de 32 ans redevenait l'adolescent plein de croyances. L'été finissait. Des occupations avaient retenu cette famille à Paris, contre ses habitudes. Mais, au mois de septembre, elle fut libre de partir pour une terre située en Auvergne, et le père me pria de venir habiter, pendant 2 mois, un vieux château perdu dans les montagnes du Cantal. Quand cette amicale invitation me fut faite, je ne répondis pas tout d'abord. Mon hésitation me valut la plus douce, la plus délicieuse des expressions involontaires par lesquelles une modeste jeune fille puisse trahir les mystères de son cœur. « Evelina... Dieu !» s'écria Benassi, qui resta pensif et silencieux. « Pardonnez-moi, capitaine Bluteau, reprit-il après une longue pause. Voici la première fois, depuis 12 ans, que je prononce un nom qui voltige toujours dans ma pensée et qu'une voix me crie souvent pendant mon sommeil. Evelina, donc, puisque je l'ai nommée, leva la tête par un mouvement dont la rapidité brève contrastait avec la douceur innée de ses gestes. Elle me regarda sans fierté, mais avec une inquiétude douloureuse. Elle rougit et baissa les yeux. La lenteur avec laquelle elle déplia ses paupières me causa je ne sais quel plaisir jusqu'alors ignoré. Je ne pus répondre que d'une voix entrecoupée, en balbutiant. L'émotion de mon cœur parla vivement au sien, et elle me remercia par un regard doux, presque humide. Nous nous étions tout dit. Je suivis la famille à sa terre. Depuis le jour où nos cœurs s'étaient entendus, les choses avaient pris un nouvel aspect autour de nous. Rien ne nous fut plus indifférent. Quoique l'amour vrai soit toujours le même, il doit emprunter des formes à nos idées, et se trouver ainsi constamment semblable et dissemblable à lui-même, en chaque être de qui la passion devient une œuvre unique où s'expriment ses sympathies. Aussi le philosophe, le poète, savent-ils seuls la profondeur de cette définition de l'amour devenue vulgaire, un égoïsme à deux. Nous nous aimons nous-mêmes en l'autre. Mais si l'expression de l'amour est tellement diverse que chaque couple d'amants n'a pas son semblable dans la succession des temps, il obéit néanmoins au même mode dans ses expansions. Ainsi les jeunes filles, même la plus religieuse, la plus chaste de toutes, emploient le même langage et ne diffère que par la grâce des idées. Seulement, là où, pour une autre, l'innocente confidence de ses émotions eût été naturelle, Evelina y voyait une concession faite à des sentiments tumultueux qui l'emportaient sur le calme habituel de sa religieuse jeunesse. Le plus furtif regard semblait lui être violemment arraché par l'amour. Cette lutte constante entre son cœur et ses principes donnait au moindre événement de sa vie, si tranquille à la surface et si profondément agité, un caractère de force bien supérieur aux exagérations des jeunes filles, de qui les manières sont promptement faussées par les mœurs mondaines. Pendant le voyage, Evelina trouvait à la nature des beautés dont elle parlait avec admiration. Lorsque nous ne croyons pas avoir le droit d'exprimer le bonheur causé par la présence de l'être aimé, nous déversons les sensations dont surabonde notre cœur dans les objets extérieurs que nos sentiments cachés embellissent. La poésie des sites, qui passait sous nos yeux, était alors pour nous deux un truchement bien compris, et les éloges que nous leur donnions contenaient pour nos âmes les secrets de notre amour. À plusieurs reprises, la mère d'Evelina se plut à embarrasser sa fille par quelques malices de femme. « Vous avez passé 20 fois dans cette vallée, ma chère enfant, sans paraître l'admirer, » lui dit-elle, après une phrase un peu trop chaleureuse d'Evelina. « Ma mère, je n'étais sans doute pas arrivée à l'âge où l'on sait apprécier ces sortes de beautés. Pardonnez-moi ce détail sans charme pour vous, capitaine, mais cette réponse si simple me causa des joies inexprimables, toutes puisées dans le regard qui me fut adressé. Ainsi, tel village éclairé par le soleil levant, telle ruine couverte de lierre que nous avons contemplée ensemble, servirent à empreindre plus fortement dans nos âmes, par la souvenance d'une chose matérielle, de douces émotions où, pour nous, il allait de tout notre avenir. »